avec Benjamin Smadja et Elsa Dupéret.
La journée finit bien.
On va aller au cinéma découvrir une véritable fresque historique, celle des couleurs de l'incendie, un film avec et accessoirement réalisé par Clovis Cornillac. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous sur Radio Lac pour finalement ce retour dans les années 30. Alors là, c'est ceux qui nous écoutent se disent un film sur la Seconde Guerre mondiale. Oui, mais non.
Non, c'est pas le sujet, quoi. C'est en filigrane, c'est dans cette époque-là. Mais d'ailleurs, c'est le film à un moment une ellipse. Il est en deux parties. Et il y a la première partie qui est en 29 et la deuxième en 34. Donc c'est vraiment deux époques, mais c'est surtout la trajectoire d'une femme qu'on va suivre. Et c'est un revenge. C'est une femme qui va se révolter contre un paquet de salopards. On peut les nommer comme ça, même s'ils sont riches, c'est pas des salopards parce que c'est des salopards, c'est des gens qui pour des raisons diverses et variées, se comportent de manière assez dégueulasse. Alors, le personnage principal, c'est Madeleine, qui est jouée par Léa Drucker, et qu'on va suivre à travers cette époque-là et à travers des aventures. Ça me semble quelque chose d'important à dire, c'est-à-dire que c'est pas un film de reconstitution pour essayer d'éclairer sur des choses très précises, mais en revanche c'est une aventure humaine et historique, quoi.
Qu'est-ce qui vous a touché particulièrement dans cette histoire pour avoir choisi de l'adapter puisqu'elle est tirée d'un roman éponyme?
Alors en fait, moi, la littérature de Pierre Lemaitre, je suis fan depuis les premiers romans policiers qu'il a écrits. J'ai toujours suivi cet auteur. Il y a des auteurs que je suis comme ça, comme chacun d'entre nous. Bon, alors voilà, dès qu'il sort un bouquin, tu suis et tout ça. Puis un jour, avec Pierre, on s'est rencontrés parce que je voulais vraiment rencontrer cet homme-là. Et on a eu un premier projet à un moment. Et puis, ils sont venus me chercher pour réaliser Couleur de l'incendie. J'étais extrêmement flatté, extrêmement heureux de travailler avec lui. Parce que c'est une littérature qui correspond à ce que j'aime aussi projeter au cinéma. C'est-à-dire avoir... c'est des grands films aventureux, quoi. J'aime cette idée-là, populaire, aventureux et pas con. C'est-à-dire qu'en gros, mais ça donne pas des leçons. On n'est pas dans quelque chose de didactique. On est dans une voilà.
On est dans le gris, c'est ni blanc ni noir. Hein.
Ouais. Alors après, il y a des prises de position. On est surtout dans quelque chose qui a à voir avec du spectacle. Je pense que par le spectacle, la salle de cinéma, elle a pour moi c'est une de ses vocations. En tous les cas, c'est d'aller au spectacle, pas bête. Un spectacle, voilà, le spectacle n'est pas forcément synonyme de tour de manège, quoi. Tu peux, y a des grands films d'aventure, des grands films même des westerns. Je veux dire, quand tu regardes Impitoyable, tu dis c'est du spectacle, c'est du western et ça parle de certaines choses. On évoque des choses comme, des grands films français aussi. Je veux dire, Verneuil. Il en a fait, enfin, on a puis des réalisateurs actuels, hein. Là je prends des anciens parce que j'ai l'impression que ce cinéma-là a à voir avec, il est pour tout le monde, c'est-à-dire que c'est pas un cinéma qui est dans le clivage, c'est un cinéma à partager, quoi.
Et en tout cas, à mon avis, qui se perd un peu parce qu'aujourd'hui, mais parce que les financements, la production font que, on veut des comédies d'1h40 assez formatées. Donc un film de 2h10 sur une histoire comme ça et en même temps une histoire très actuelle, une histoire de femme, on n'en voit plus.
Alors, je pense que régulièrement, heureusement, il y a toujours des projets ambitieux comme ça qui sortent 1, 2, 3 dans l'année. Parce que effectivement, ça demande un investissement et que c'est toujours pareil, quoi. On préfère quelque chose souvent de plus petit qui peut rapporter plus gros. Le cinéma n'est pas exempt de ce qui se passe dans la société. C'est-à-dire que les projets sont un écho à ce qu'on vit nous tous tous les jours. J'imagine que Radio Lac, à un moment, ils disent tiens, ça serait bien si on pouvait émettre ou si on pouvait faire, par exemple, organiser un festival. Ah ouais, mais tant si on organise un festival et machin, ça va être bon, bah alors on ne le fait pas. Donc c'est
vous êtes collègue de non
de qui?
C'est exactement ça, c'est pour ça que je suis très surpris.
Non, je disais ça au hasard, mais ce que je veux dire par là, c'est que souvent on a beaucoup d'ambition, et dans le cinéma on est quelques-uns quand même à avoir envie de faire des fresques, des films qui embarquent les gens et tout. Après encore une fois, hein, on peut ne pas aimer ces films-là, et c'est, il en faut pour tous les goûts. C'est pas la, je ne dis pas qu'il faut que ça, mais c'est vrai que ce cinéma où tu peux avoir 80 balais, où tu peux en avoir 50, tu peux être un homme, une femme, tu peux avoir 20 piges. Moi, mes filles, elles ont vu le film, elles sont folles du film. Et Dieu sait que tes gamins, toi, elles ont 21 ans, c'est pas, tes gamins, c'est pas tes fans. Hein. En général...
Ils sont plutôt durs avec nous.
Elles sont en amour absolu avec le film, parce qu'il y a quelque chose qui résonne avec le spectacle, qui résonne avec... Elles ont été embarquées, quoi. Et je me dis, ça, c'est voilà, ma famille lyonnaise en banlieue peuvent aller voir ce film comme le ministre des Affaires étrangères. On est tous au même endroit face à ce type de cinéma.
Et c'est une histoire qui nous touche à juste titre aujourd'hui aussi. C'est peut-être aussi pour ça que vos filles et tout le monde peut être de façon universelle touché par ce film. L'histoire se passe il y a 100 ans. Ça parle de corruption, de revanche, de femmes. Où en est la société aujourd'hui? Cette histoire résonne aujourd'hui encore 100 ans après.
Oui, mais comme tout, on pourrait parler par exemple d'Hamlet. Tu montes Hamlet aujourd'hui, ça résonne pareil. C'est-à-dire que je pense que, et c'est en ça où Pierre Lemaitre, je pense, est un grand auteur. C'est des choses universelles. On est en 2022. À l'échelle de la planète et de l'espèce humaine, on est à l'aube du tétard, quoi. C'est-à-dire qu'on est très prétentieux parce qu'on a effectivement la technologie, mais on va dire, allez, 4500 ans de civilisation, c'est que dalle. Et on est sûr d'être au bout et d'avoir tout fait et de tout connaître. Et de dire, mais de toute façon, c'est toujours... Donc il y a cette prétention de l'humain de se dire... En vrai, on fait écho encore, et tu le vois même dans l'analyse, on parle d'Oedipe, on parle d'Ulysse, on parle d'Icare. Enfin, c'est-à-dire, les références sont des références d'hier, alors qu'elles ont déjà 2000 ou 2500 ans. Donc tu fais la démocratie, l'organisme grec ou romain... Ça nous paraît très vieux, puis en fait, c'est hier. Donc, effectivement, tu lis Balzac. Moi, je lis Balzac régulièrement. C'est une description totalement actuelle de la société dans laquelle on est. Donc, on peut faire écho aux époques. Et finalement, c'est à peu près les mêmes.
Et de la manière dont on se comporte par rapport aux époques. Et c'est vrai que c'est là aussi où l'on voit qu'il y a parfois des récurrences, comme c'est le cas dans votre film avec ces histoires de salauds qui ne font pas exprès d'être des salauds, mais quand même un peu. Évidemment, je renverrai les gens vers les salles de cinéma. Vous, d'une certaine manière, passez après Albert Dupontel, qui avait réalisé la première partie, c'est une trilogie de Pierre Lemaitre, Au revoir là-haut. Aujourd'hui, Les couleurs de l'incendie. Est-ce qu'on a l'impression justement d'avoir un poids sur les épaules qui s'appelle Au revoir là-haut, ou puisque c'est une autre histoire, c'est une page blanche?
Ah oui, ça je pense que c'est chacun, c'est les individus. Moi j'ai pas ce souci-là. J'adore Albert. C'est un mec vraiment. Puis enfin, je crois qu'on s'aime beaucoup et que c'est réciproque. J'ai pas de je ne me comparerai jamais. À lui et à d'autres, c'est pas. Je suis très calme avec ça. En fait, ça m'a même pas effleuré, pour être absolument sincère. Je pense que, en revanche, probablement les critiques et probablement une partie du public fera des comparaisons, parce que c'est une sorte de gymnastique qui peut paraître évidente, et puis qui permet de se dire, ah ben non, moi je préfère le cinéma d'Albert, je préfère ce cinéma-là.
Ce sont deux histoires très différentes.
Non, mais même, enfin, c'est quelque chose qui, de toute façon, tu ne peux pas faire des choses et ne pas être soumis à la critique. Après, celle-ci particulièrement ne me fait pas avancer, moi. C'est-à-dire, ne m'intéresse pas beaucoup, parce que c'est une question de goût. Moi, ce que je fais quand je fais un film, c'est je fais le mieux que je peux. C'est-à-dire que je ne regrette rien. Après, que des gens pensent que tel cinéaste est meilleur que... Bah, bien sûr, moi je suis pareil, hein. Je veux dire, y a des cinéastes que j'adore, puis des cinéastes où je suis moins sensible. C'est comme, et c'est pas pour autant que j'ai forcément envie de les défoncer. C'est vrai que je prends plus de...
On a perdu cette habitude aujourd'hui, cela dit. Hein,
oui, oui. Non, mais j'ai plus de sensibilité au cinéma de Scorsese, par exemple, que d'un grand qui vient de nous quitter, qui est Godard. Mais je suis beaucoup plus impressionné par l'intelligence de Godard que celle de Scorsese. Donc, voilà, je ne vais pas dire Godard, il fait des mauvais films. Je dis, mais pas du tout. C'est juste que c'est un langage sur lequel, voilà, je suis plus dans un cinéma scorsésien où ça me fascine.
Ce qui touche aussi dans votre film, c'est la façon dont le casting semble évident, naturel. Léa Drucker, Benoît Poulvord ensemble. Tous ensemble, ces acteurs semblent évidents. C'est évident de les avoir. Comment est-ce que vous les avez choisis ?
C'est des questions très complexes parce qu'en fait, en fait, c'est eux et basta. C'est-à-dire que un processus de fabriquer un film, il y a ce socle qui est le scénario, ce moment où on se dit. Voilà, on est tous heureux du scénario, c'est ça qu'on va faire, et voilà moi quel film je vais faire avec ça. Je vous le dis verbalement, et ensuite je me tiendrai à ce que je dis. Si on est tous d'accord, maintenant vous me lâchez la bride, c'est moi qui décide de mon univers. Et puis tu commences à réfléchir à des acteurs, et puis petit à petit, quand un acteur t'a dit oui, et que tu avais deux ou trois options dans ta tête en disant « Ah mais l'association avec un tel... » Et je vais les emmener sur ce territoire-là. Donc, non, je crois que ça serait formidable que ce soit lui. Je crois que ça serait là, si j'ai ça, c'est bien, si j'ai ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se constitue entre les refus aussi que tu as, parce que tu as des gens qui te refusent. Mais c'est à l'arrivée, ce qu'il faut, c'est surtout et d'avoir cette chance, d'avoir que ce soit les actrices, les acteurs de ton film, les même les chefs de poste et tout ça, c'est que ceux qui sont au rendez-vous doivent être au rendez-vous. Ils doivent être au travail. Et moi, je ne travaille qu'avec des gens à qui j'ai dit on va bosser, mais ça va être génial. On va se régaler, mais on va bosser. C'est-à-dire, personne ne pionce sur mes plateaux, c'est pas le principe. Et des acteurs qui ont le talent qu'ils ont, mais qui sont au travail pour être encore, tu peux les emmener encore à un endroit particulier, sur un territoire particulier. Ben, il faut un sacré talent et aussi une énergie au travail. Et ça j'ai besoin de ça. Je ne pourrais pas travailler avec des gens flemmards.
Benoît Poulvord joue le rôle d'un fieffé coquin, pour ne pas dire pire. Y a-t-il des rôles que vous préférez jouer ou diriger ?
Non, parce que le principe, quand tu fais un film, quand tu joues dedans ou que tu fabriques un film, quoi qu'il arrive, ce qui va compter, c'est d'être pour le film. Donc, dans l'ensemble, il y a quelque chose. Quand tu es acteur, tu es une partie du film et tu essayes d'accompagner, de comprendre à quel endroit la réalisation veut aller et t'amènes ce que tu peux amener quand on ne te demande pas. Parce que souvent, on ne nous demande pas grand-chose, donc on est des machines à jouer, quoi. Mais quand tu es avec des gens qui ont une idée précise, qui essayent de t'emmener... Alors, de jouer un salaud ou de jouer un gentil ou de jouer un mièvre ou de jouer un comique ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas tellement ça qui est... Qui... Après, voilà, je sais qu'il y a des acteurs et avec qui je prendrai du plaisir à travailler où tu sais que tu vas les prendre parce qu'ils ont envie d'un rôle. Alors, ça c'est très particulier parce que je pense que dans ces moments-là, il faut savoir que tu ne peux pas être jugé parti et que c'est bien de se laisser, de rentrer dans l'univers de quelqu'un. Et de temps en temps, il y a plein d'acteurs qui acceptent des rôles plutôt que des films. Et à partir du moment où ils acceptent des rôles, des fois, ils sont très déçus parce qu'ils disent « Ah ben oui, mais le film n'est pas à la hauteur. » Et tu fais « Ben oui, mais tu n'as pensé qu'au rôle. Si tu avais regardé peut-être le truc, tu te serais dit « Ah, Il me faudrait le rôle, mais le film.
Oui, c'est un peu plus grand que soi, évidemment. Ouais. Et ça se passe comment, le travail avec ces énergies qui sont très différentes? Moi, je n'ai jamais travaillé avec Benoît Poulvorde, mais pour l'avoir eu plusieurs fois en interview, il faut le tenir, le garçon. C'est une énergie très différente de Fanny Ardant, de Léa Drucker.
Rien à voir.
Donc ça fonctionne comment, ça? Pour avoir cette alchimie, au final, qui est magnifique, comme disait Elsa.
Mais faut être... Moi, je suis passionné et je lâche rien et je connais les acteurs. Et ils savent que je les connais. Et ça, je pense qu'on n'a pas besoin de se le dire. Et donc, effectivement, moi, je suis beaucoup dans la confiance et dans quelque chose d'une énergie amoureuse et sympathique. Pas du tout une énergie fascisante et gueularde. J'aime pas ça, j'aime pas qu'on me crie dessus, je crie pas sur les gens. Mais en revanche, je lâche rien. Avec beaucoup de tendresse, mais je lâche rien. Et Benoît, que je connaissais parce qu'on avait fait Astérix ensemble, et c'est quelqu'un que je trouve absolument remarquable et souvent sous-évalué comme acteur à mes yeux. Ce qui m'intéressait, c'est l'acteur Benoît, quoi. Et de temps en temps, il a besoin de cette énergie-là, il a besoin de ce truc-là pour ne pas mourir. Il a quelque chose de cet ordre-là. Il faut qu'il y ait du bruit, faut que ça bouge, faut que ça. Alors on trouve un espace où, à un moment, il a attaqué le film, parce que je lui avais dit aussi avant, j'ai dit on va bosser, Ben, hein, ça va pas, c'est pas. C'est du ouais, et tout. Puis très. Et il est arrivé où, déjà, apprendre ce type de texte, pour lui, c'était très compliqué. C'est un truc, il n'est pas habitué à ça. Et puis, dès que tu es un peu fatigué, dès que tu es un peu de ça, tu peux avoir tendance à... Et Benoît, c'est quelqu'un, si tu ne le lâches pas, ce n'est pas un traître, ce n'est pas un lâche, quoi. Il voit bien qu'il y a quelque chose de juste dans ce que tu es en train de demander. Il voit bien que ce n'est pas pour faire chier, que ce n'est pas pour... Et quand tu arrives à canaliser et à savoir, toi, où sont tes plans, qu'est-ce que tu vas prendre et tout ça, tu ne vas pas l'user sur un truc où il n'y a pas besoin, où tu vas monter que le début de la réplique, ça ne sert à rien de l'épuiser à un truc. Je préfère qu'il aille faire le con dehors et faire rire les gens dehors pendant que nous, on travaille à l'intérieur, et le faire venir en disant, bim, c'est maintenant, Ben. Là, c'est maintenant. Là, ça, il le faut. On ne l'a pas, on recommence. On y retourne, machin, et... de nourrir aussi toujours. C'est-à-dire, n'oublie pas, il y a ça. N'oublie pas, il y a ce dépit amoureux. N'oublie pas que cet homme-là est très dur. Mais il est très dur parce que c'est quelqu'un qui est brisé. Et cette chose-là, c'est quelque chose qu'il peut entendre. Donc, il y avait ce côté-là. Et puis à côté, tu as une Léa Drucker, notre héroïne, qui est un Stradivarius. Donc, alors, comme c'est un instrument absolument fabuleux, c'est toujours pareil, un instrument fabuleux. Alors, je ne réduis pas les acteurs à des instruments, mais on comprend l'image. C'est que faut savoir en jouer, quoi. Et si, tu auras toujours un bon son. Donc, Léa, elle sera toujours bonne. Et tu ne verras jamais Léa pas bonne. La question, elle n'est pas là, en fait. C'est où est-ce que tu veux l'emmener et où est-ce que tu peux jouer sur des quarts de ton et des choses comme ça où il y a une pureté et quelque chose que tu peux aller choper. Et comme elle est au travail, et que c'est un bonheur cet échange-là, là, on travaille à cet endroit-là. On travaille sur du micro-son, quoi. On travaille sur de la grâce de ton territoire. Et ça, c'est formidable, comme avec d'autres acteurs, des Gilles Privat, qui est un acteur absolument remarquable, que j'adore, mais il y en a plein dans le film. Je trouve que les acteurs... De toute façon, j'aime mon film, hein, je ne veux pas vous mentir, et pas en côté « je me la pète », juste... Je l'assume et revendique à tous les niveaux. Donc tout ce que vous aimez pas, c'est vraiment de ma faute. Tout ce que vous aimez, c'est vraiment grâce aux gens qui sont là et qui sont allés dans ce sens-là, quoi.
On vous rassure, on aime vraiment votre film. Il nous a procuré beaucoup d'émotions. Vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous procure de l'émotion ?
Faire du cinéma. Ouais, fabriquer du cinéma. Mais plein de choses, hein, procure d'émotions, on ne va pas se mentir. Mon fils, ma femme, mes potes, la vie, la politique, les angoisses.
Attention, vous êtes à ça de dire le sourire d'un enfant.
À quoi ? Comme Yves Duteil.
C'est ça, exactement.
Mais il faut faire gaffe, hein, parce que...
Oui, il y en a. Voilà, on est d'accord. On s'arrêtera là.
Oui.
Je termine avec ça. Il y a une suite à ce roman qui est Miroir de nos peines. Vous aimez Pierre Lemaître ? Est-ce que vous avez déjà lorgné dessus ?
Oh, je me permettrai pas, non. Non, non, j'adore Pierre. Et de toute façon, je pense que l'histoire du cinéma et de la production est faite de telle manière que ça n'est pas à l'ordre du jour pour moi aujourd'hui, même de refaire un film. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu remets tout à zéro. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, pour la faire simple, moi, j'adore fabriquer du cinéma. Ça me comble, mais c'est toujours pareil. C'est aussi une industrie. Et l'industrie du cinéma fait que si je me ramasse avec celui-là, ça va être très compliqué de faire un autre film. Donc, on ne va pas lorgner sur un truc auquel où tu fais oui, mais enfin, peut-être que dans 3 mois, déjà, tu auras honte de cette interview. Donc,
je ne vous le souhaite pas, dites donc.
Non, je dis pour vous. En disant, ben non, finalement, pourquoi on a diffusé ça? Le gars, il est mort.
Clovis Cornicchi, c'est le réalisateur de ce film Couleur de l'incendie. Allez le voir et allez le voir au cinéma, parce que vraiment, ça vaut le coup de le voir au cinéma, comme tous les vrais films de cinéma réalisés et en partie interprétés par Clovis Cornillac. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Pour bien finir la journée, il suffit d'écouter Benjamin Smadja et Elsa Dupéret sur Radio Lac. Radio Lac.